6h sur Europe 1. Très bon réveil.
Cette carte était toute verte la semaine dernière. Et là, mercredi, on a vu que sur la tendance globale, on était monté, qu'il y avait un départ d'épidémie. Et là, on a vu que la carte a changé de couleur.
Eh oui, sur la carte, moins de vert et plus d'orange, voire de rouge par endroit. Les analyses des eaux usées de Marseille révèlent une plus forte circulation du virus. 7 cas du variant britannique ont été identifiés. Twitter supprime 70 000 comptes pro-Trump accusés de partager du contenu haineux. Donald Trump, visé par 2 procédures de destitution de la part des démocrates, peut encore compter, pour l'instant, sur le soutien de son vice-président, Mike Pence. Dans ce journal, l'affaire de la chaufferie de la Défense, après presque 20 ans d'enquête, le procès pour corruption est annulé pour non-respect des délais. Colère et incompréhension pour la partie civile. À Strasbourg, un livreur Deliveroo refuse de prendre la commande de 2 restaurateurs juifs. Et puis la police nationale, désormais, sur Snapchat. Objectif, se rapprocher de la jeunesse sans tomber dans la ringardise.
Les sports à suivre avec Jérôme Lacroix et ce coup de théâtre en tête du Vendée Globe, vous verrez. Et puis mon invité inattendu à l'occasion d'une journée mondiale consacrée aux personnes rousses, parfois encore moquées, stigmatisées, dès les cours de récréation d'ailleurs. Objet de toutes sortes de croyances, mais d'où vient ce rejet? Mon invité nous raconte à 6h15. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La course contre la montre à Marseille pour identifier les nouveaux cas du variant britannique du coronavirus. 7 cas identifiés pour l'instant. Un chiffre stable selon l'Agence régionale de santé. Aucun cas supplémentaire depuis dimanche. Les marins-pompiers travaillent d'arrache-pied pour traquer le virus et ses variants dans les eaux des égouts jusqu'aux poignées de porte des immeubles. Stéphane Frangy.
C'est une sorte de thermomètre de la diffusion du virus, une carte en couleur de Marseille qui va du vert au rouge selon la concentration détectée dans les égouts par les marins-pompiers comme Alexandre Lacoste qui dirige l'unité spécialisée Comète.
Donc 40 zones, 40 bouches d'égout et à partir de là, cette carte était toute verte de cette couleur-là la semaine dernière. Et là, mercredi, on a vu que sur la tendance globale, on était monté, qu'il y avait un départ d'épidémie. Et là, on a vu que la carte a changé de couleur.
Un campus universitaire des quartiers sud est notamment ciblé. Et l'évolution de la carte permet aux 40 pompiers de Comète d'ajuster leur dispositif. Actuellement, la diffusion augmente, mais elle n'atteint pas les sommets de l'an dernier, selon l'amiral Augier.
Si je peux vous donner un ordre d'idée, en fin de semaine, on a décelé 400 copies de virus par millilitre dans les eaux de la ville, en montée tous les jours. Au mois de novembre, nous avons atteint 3000 copies de virus par millilitre. Donc vous voyez, on n'est pas dans la même gamme.
Mais les marins-pompiers ne sont pas en mesure de dépister le variant britannique en raison d'une concentration du virus insuffisante dans les eaux usées. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et dans toute la France, 25 départements sont désormais concernés par un couvre-feu anticipé à 18h. Le Var et la Drôme viennent grossir la liste à partir d'aujourd'hui.
C'est l'information de la nuit, la purge de Twitter qui annonce la suppression de 70 000 comptes liés à la mouvance pro-Trump QAnon.
Mouvance conspirationniste impliquée dans les émeutes au Capitole mercredi dernier. Twitter durcit le ton depuis vendredi avec le blocage définitif du compte de Donald Trump. Même chose pour Facebook. Le président sortant de plus en plus isolé qui est désormais visé par 2 procédures de destitution. Les démocrates ont en tout cas déposé un acte d'accusation contre lui pour, je cite, « incitation à la violence ».
Les démocrates qui appellent même Mike Pence, le vice-président, ainsi que ses ministres, à démettre le président sortant de ses fonctions avant même le 20 janvier. Sonia Dridi, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. Pour l'instant, à la Maison-Blanche, on fait front commun.
Oui, Donald Trump et son vice-président Mike Pence se sont rencontrés hier soir dans le bureau ovale et ont affiché leur unité. Ils se sont engagés à poursuivre leur travail ensemble jusqu'à la fin de leur mandat. Trump n'a donc clairement pas l'intention de démissionner. Cela signale aussi que le vice-président ne va pas invoquer le 25e amendement qui permet de démettre le président de ses fonctions, comme l'espéraient les démocrates. Du coup, il ne reste plus qu'une voie à l'opposition pour tenter de chasser Trump, la procédure de destitution. La Chambre des représentants va examiner ce mercredi l'acte d'accusation déposé hier par les démocrates. Ils accusent le président d'incitation à l'insurrection. Soutenu par les démocrates majoritaires et possiblement par quelques républicains, il devrait être facilement adopté. Mais il y aura ensuite un long procès en destitution au Sénat qui devrait aller au-delà du 20 janvier, jour de l'investiture de Joe Biden. Des proches du président élu s'inquiètent de voir cette procédure complexe entraver l'action législative des démocrates dès le début de son mandat. Certains suggèrent même d'attendre les 100 premiers jours avant d'envoyer renvoyer les articles de mise en accusation au Sénat. Biden, qui se pose en président du Rassemblement, évite de se prononcer sur la question. Il a simplement dit hier que selon lui, Donald Trump ne devrait pas exercer ses fonctions et il a annoncé le thème de sa cérémonie d'investiture, l'unité.
Sonia Dridi à Washington pour Europe 1.
Et on retrouvera notre autre correspondant tout à l'heure aux États-Unis dans la revue de presse internationale juste avant 7h pour évoquer la sécurité autour de cette passation de pouvoir et cette prise de fonction le 20 janvier à Washington. En France, à présent, le procès de l'affaire de la chaufferie de la Défense s'est ouvert hier. Et coup de théâtre, la justice a décidé d'annuler la procédure.
C'est une affaire de corruption tentaculaire. Plusieurs chefs d'entreprise sont poursuivis pour avoir faussé l'attribution du marché du chauffage et de la climatisation du quartier d'affaires. Sauf que l'enquête est en cours depuis 18 ans. Et c'est pour cela que le tribunal correctionnel de Nanterre a décidé de tout annuler, estimant que le délai courait depuis trop longtemps. Jean-Christophe Picard, ancien président d'Anticor, l'association anticorruption partie civile dans cette affaire, est tout simplement écœuré de cette décision.
C'est la chose la plus écœurante que j'ai appris depuis que je suis un militant anticorruption. C'est absolument terrible puisque c'est une affaire qui traîne depuis 20 ans. C'est une honte pour notre justice. Il faudrait une commission d'enquête, tirer les leçons de ce fiasco pour que ça serve au moins à quelque chose. Et j'espère que quelques responsabilités seront pointées et qu'à un moment donné, il y ait des sanctions. Les élus qui fautent ne sont pas sanctionnés. C'est un appel d'air pour que les mauvais comportements reviennent.
Les propos recueillis par Gladys Laffitte.
À Strasbourg, un livreur de la plateforme Deliveroo a refusé de prendre en charge des commandes à deux restaurateurs pour la seule raison qu'ils sont juifs.
Avec l'appui du consistoire israélite du Bas-Rhin, ils ont porté plainte contre le livreur, mais aussi contre la plateforme. Leur avocat, maître Raphaël Nizan.
Les restaurateurs ne voulaient pas se mettre la plateforme à dos. Mais quand ils ont téléphoné à la plateforme pour se plaindre du comportement du livreur, ils n'ont pas eu de réponse valable. Ça a été, on va en parler à son supérieur hiérarchique. C'est tout. Le boycott, c'est une arme de guerre. Et vraiment, il ne faut pas le tolérer. Ça nous évoque évidemment des heures beaucoup plus sombres où les commerces juifs étaient interdits et où les juifs étaient pourchassés, y compris dans leurs activités économiques. Il faut que la plateforme fasse en sorte que cela ne se reproduise plus, que Deliveroo mette peut-être en place, c'est notre demande, une charte éthique pour éviter que d'autres livreurs ne fassent la même chose. Si on laissait faire, ça serait très grave pour l'ordre social, l'ordre public français.
Un témoignage recueilli par Diane Berger pour Europe 1. À l'étranger, les plongeurs indonésiens continuent aujourd'hui de chercher des débris du Boeing qui s'est abîmé au large de Jakarta ce week-end. 62 passagers se trouvaient à bord de l'appareil au moment de l'accident.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
6h10, la suite du journal Sophie Echen.
Après Twitter, Facebook et Instagram, voilà que la police nationale débarque sur Snapchat. Le but, trouver un canal de communication avec les plus jeunes alors que la police est décriée dans l'actualité et accusée de racisme et d'actes violents. Le compte est actif depuis hier soir et le policier qui en a la charge va devoir se faire une place dans cet univers où fake news et insultes sont légion. Justin Morin.
Je m'appelle Anthony et je suis policier. La question que vous devez tous vous poser, pourquoi la police débarque sur Snapchat ? Je crois que la question, elle est vite répondue.
Vidéo rythmée, ton décalé, Anthony, policier depuis 14 ans et dernièrement enquêteur au sein de la police judiciaire et désormais le nouveau visage de la police nationale sur Snapchat. Son rôle, faire découvrir en immersion les coulisses de la police.
On a une tranche d'âge, un cœur de cible qui est de 12 à 24 ans. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a un manque, justement, de communication envers cette tranche d'âge. Et j'ai envie de penser qu'on va pouvoir aussi donner une bonne image.
L'idée de ce compte a germé courant 2020 dans le contexte des affaires de racisme et de violences policières. Certaines ont commencé sur Snapchat, d'où l'importance de leur présence, selon Michel Laveau, porte-parole de la police nationale.
Si des questions se posent sur des opérations ou des actions de la police nationale, pour autant, la police nationale ne se résume pas à une simple image capturée pendant quelques secondes. C'est autre chose qu'une caricature ou une image déformée.
Un youtubeur de 23 ans a été recruté pour faire oublier l'étiquette stricte de la police. C'est tout l'enjeu, éviter d'être ringard, sans quoi ce compte pourrait avoir l'effet inverse de celui recherché.
Justin Morin. Et puis Emmanuel Macron attendu à Vernon dans l'heure cet après-midi. Le chef de l'État se rendra dans l'usine Ariane Group où les ingénieurs fabriquent en ce moment une nouvelle génération de moteurs de fusée alimentés à l'hydrogène.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1. Il est 6h11.